Je dis toujours maintenant que je devais être anarchiste dans le ventre de ma mère, déjà, mais c'est un mot, n'est-ce pas? Et je devais l'être, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne sais même pas le mot. Oui, les anarchistes, les bombes, bon, d'accord. Et l'anarchie, alors j'ai regardé un petit dictionnaire Larousse, tout petit, et j'ai regardé anarchie, et j'ai vu simplement négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. C'est fantastique, ça. Maintenant, on va voir le dictionnaire, tu verras autre chose, il y en a des kilos, hein, bon. Et alors j'ai trouvé ça, et alors ce qui m'avait étonné, c'est que j'allais chercher ce mot-là, justement, quoi. Pourquoi ? L'anarchie, c'est l'extrême solitude, c'est le don, c'est le sourire, comme l'amour, quoi, voilà. Moi, ce que je dis quand je pense, j'aime bien qu'on partage mes idées, parce que je suis prêt à leur donner les couteaux, d'ailleurs, pour couper tout, prendre des morceaux, de tout ce que, parce qu'au moins, je sers à quelque chose, quoi. Et c'est fantastique de pouvoir, à notre époque, servir de guide, comme ça, sans exagérer, sans prétention, à ces jeunes qui sont, avec ces moyens de la formation maintenant, qui vont être de plus en plus tenus en laisse, quoi, c'est vrai, quoi. C'est pas que des gens veuillent le faire, mais c'est comme ça, c'est parce qu'il y a la technique qui remporte tout, on parle bien de l'ordinateur et tout ça, et c'est vrai, quoi. Je dis souvent que c'est difficile parce que j'en comprends pas bien ça. Quand je parle de ça, que il fait beau en ce moment. Il fait beau, anormalement beau. Alors moi je dis qu'il y a quelqu'un, il y a un pays qui a trouvé le moyen de maîtriser le temps, ils font des expériences. C'est moi qui le dis ça. Mais c'est très possible. Ouais, pourquoi pas? Et celui-là, il va mettre du monde, s'il est seul à le savoir. C'est terrible ça. Mettre de la sécheresse et des inondations et de la fin dans le monde, quoi. Sinon, la fin du monde. Chose qui m'a toujours étonné, qui m'étonne encore quand je la chante. C'est une chanson qui est difficile à comprendre, sinon impossible à comprendre si on ne connaît pas vraiment ma vie, de ce moment-là, d'une époque de ma vie, qui s'est passée beaucoup en Bretagne. Et cette chanson, ça marche terriblement. Et les gens me demandent, les gens m'en parlent souvent, ça s'appelle « La mémoire et la mer ». La mémoire et la mer, alors là, je comprends pas, parce que les gens connaissent, si on connaît pas ma vie, on peut pas comprendre cette chanson. Et alors ils comprennent à leur façon. Il y a un type de la Sorbonne qui avait fait, qui avait été voir des ouvriers, qui avait demandé, en leur faisant écouter la chanson, qu'est-ce que vous pensez? Alors ils avaient tous des interprétations différentes, mais enfin, pas bêtes du tout, quoi, sur des mots, ils se trompaient, ce n'est pas ce que j'avais voulu dire, mais quand même, ils étaient dans le coup, quoi. Alors là, donc, on peut pas dire, hein. On peut pas dire, non. On peut pas dire, mais dans les chansons que je fais, il y a des chansons que... Non pas que moi, j'aime particulièrement mes chansons, ce que j'aime, c'est la musique, et comme je... Voilà, une chose que je fais depuis quelques années, c'est que je fais, comme on dit, des arrangements, enfin, c'est les orchestrations de mes chansons, et je le fais toujours, ça a toujours été comme ça, j'ai écrit toujours la musique de ces arrangements, avec le devoir, en le faisant, qu'il faut que cette musique puisse être jouée toute seule, sans parole. C'est rigolo parce que quand j'entends une musique comme ça, j'ai donné une cassette d'un playback uniquement d'orchestre aux techniciens qui travaillent avec moi au théâtre. Et alors il m'avait demandé de mettre de la musique comme ça, des chansons. Je dis, mais pas de chansons, je te donne ça. Et le soir, je suis arrivé au théâtre, je ne me souvenais plus. J'ai écouté une musique, je me dis, oh, dis donc, c'est bien cette musique. Et puis c'était moi. C'est extraordinaire, quoi. Donc, ça m'intéresse de travailler comme ça, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai fait pour les poètes, en toute humilité, j'ai fait connaître Baudelaire à des tas de gens, et Rimbaud, et Verlaine. Et c'est pas moi, c'est la musique, quoi, qui est porteuse, n'est-ce pas ? ça, c'est fantastique ça. Sinon les poètes sont lus par les étudiants, par les universitaires, par certains maniaques, et encore, ils ne lisent pas tout, tu ne peux pas prendre les œuvres de Verlaine dans ton lit et puis lire tout, ça, lire 100 pages pendant la nuit avant de t'endormir, c'est pas vrai, c'est pas possible quoi. Tandis que quelqu'un même qui n'est pas, comment dirais-je, prédestiné, je dis ça entre guillemets, à pouvoir juger de ces poètes, c'est-à-dire un qui n'a pas été longtemps à l'école, il écoute la musique et les paroles, et puis il se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et puis il remet le disque. Et puis, il y en a qui vont acheter le livre de poésie, tu comprends? Alors c'est pour ça que je l'ai fait avec beaucoup d'humilité, je le dis, parce que la musique doit être porteuse, c'est tout. Et le seul critère pour choisir, je ne choisis pas la musique, c'est ça. Et voilà, quand j'avais fait Baudelaire, au début, hein, j'avais pris faire du mal, puis je tournais la page. Il fallait que je chante tout de suite. C'est-à-dire que j'improvise tout de suite ma voix que j'improvise avec ma voix sur les poètes. S'ils n'y arrivaient pas, je tournais la page. Et je ne lisais pas la poésie. Je la connaissais comme ça, vaguement, j'avais lu ou pas lu. Hein. Il fallait que le premier vers tout de suite s'engage, tout de suite. Je fais ça avec toi, deux exceptions près. Tu comprends? Alors je suis sûr que c'est la musique, parce que je n'ai pas à choisir, parce que évidemment je peux faire quatre musiques différentes sur chaque poème, et après qu'est-ce que je fais pour mettre ce qui doit aller vraiment avec le texte, voilà. Le tube, on sait après que c'est le tube. Tu sais que moi quand j'ai fait Paris Canaille, je fais ça, je me demandais, j'avais fait ça écrire, oui j'avais écrit sur un calepin un jour à la maison Paris Canaille, bon. Quelques temps après, j'ai fait cette chanson. Puis j'avais une voisine qui était gentille, qui était venue m'écouter. Alors j'ai dit, voilà ce que j'ai fait. Elle me dit, Léo, ça c'est fantastique, ça. Alors je ne m'en rendais pas compte. J'avais pris rendez-vous le même jour. C'est une histoire que je raconte parce que ça me tient à cœur. Et puis tu verras pourquoi. J'ai pris rendez-vous avec les frères Jacques, avec qui j'avais travaillé, justement, au Bœuf sur le Toit. À la Rose Rouge, un jour, à midi, j'ai chanté la chanson, ils ne m'ont pas laissé aller jusqu'au bout, en me disant, Léo, il y a trop de paroles. Hein? Alors, j'ai parti. J'avais rendez-vous à 2h, 2h30, chez Montand, Place Dauphine, que j'avais connu chez Piaf. Je chante, il m'arrête lui aussi avant la fin de la chanson, il se retourne, il se met un chapeau melon, il prend un revolver postiche, il me dit, regarde, j'ai déjà une chanson de gangster. Et le soir, à 6h, chez moi, sur la... C'est vrai, hein, c'est pas des blagues. Hein. J'étais sur la frontière de Neuilly et du 17e, est venu Mouloudji. Et Mouloudji, c'est un garçon intelligent. Hein. Et il avait écrit, il avait joué dans un film, Nous sommes tous des assassins, qui marchait bien. Et il remplissait la Villa d'Est à tout va le soir. Et puis alors, je me suis dit, tiens, si je chante cette chanson, pour, ça m'aurait fait plaisir. Quoi. Bon, hein. Il est venu, il m'a regardé pendant la main sous le menton, comme ça. Il m'a écouté, puis il est parti. Hein? Voilà. C'est tout, quoi. Et un jour, un producteur de chez Philips avait fait chanter ça à Catherine Sauvage, qui l'a chanté, on l'a connu comme ça, la chanson. Alors, c'est l'histoire que je te raconte. Je te la raconte. Je la raconte quand on me pose des questions comme ça sur ma vie passée, sur mon métier passé, surtout. Depuis longtemps. Et en 52, fin 52, donc ça fait... Ça fait 33 ans, non? Hein? Non, oui, 33. Non, 30. Eh oui, 33 ans, non? Bon, je raconte ça. Et l'année dernière, j'avais écrit, il y a deux ans, l'Opéra du Pauvre, qui était un truc mi-théâtre, mi-symphonique, mi-théâtre d'opéra, enfin, des tas de choses là-dedans. Et il y a un journaliste du Matin, Canavo, qui m'a fait un bon article là-dessus. Et puis qui me dit, alors il me fait une interview comme ça. Il dit, comment ça va? Il me parle de ma vie passée, tout ça, des trucs, dans le métier. Et je lui raconte ce que tu viens de te raconter, c'est-à-dire l'histoire de Paris Canaille. Le même jour, j'ai vu ces trois artistes, quoi. Trois artistes, les frères Jacques, on pouvait considérer ça comme un artiste, un numéro à plusieurs, quoi. Et je raconte ça. Il devait écrire ça pour 3-4 jours après, quoi. Je rentre chez moi en Italie. Et un matin, j'ai ma petite fille qui avait 6 ans à ce moment-là, elle en a 8 maintenant, j'étais au piano, elle me dit, papa, monsieur Montand te demande, comme ça, l'accent un peu du sud-ouest. Et j'étais content parce qu'il ne me téléphone jamais, et puis moi je trouve que pour ce qu'il fait, lui, dans ce qu'il fait, il a du talent. Ouais, il le fait très bien. C'est devenu un grand acteur de cinéma parce qu'il a travaillé, etc. Bon, j'avais raconté cette histoire sans aucune arrière-pensée du tout. Alors, j'entends quelqu'un qui parle au téléphone. Bonjour, je ne comprends rien de ce qu'il disait parce qu'il parle très vite. Et ça se bouscule au portillon, comme on dit. Et j'avais juste le temps de t'interrompre des fois. Il me dit, puis non, c'est pas, tu vas pas que chez Piaf, c'est moi qui te fais connaître Piaf, tout ça. Et puis c'était pas Paris Calais, c'était M. William, etc. Toutes les choses qui étaient fausses, quoi. Bon. Alors, j'ai pas le temps de lui parler. Et il finit par me dire, et puis, Bedos et toi, vous êtes deux fascistes rouges et des petits merdeux. Et j'ai juste le temps de lui répondre, et toi, t'es un grand merdeux. Puis il a, parce qu'il a raccroché avant. Moi, j'estime quand on appelle quelqu'un au téléphone, on raccroche jamais, on attend que ce soit la personne qu'on appelle qui raccroche. C'est trop facile, sinon. Et j'ai une copie à Marseille, il y avait la copie, photocopie de quelques pages du dictionnaire de la musique, ou de la chanson, de Pierre Sacca. Et à la page aussi, avec ma photo, là où il y a Ferré, quoi. Je racontais cette histoire, quoi. Et le dictionnaire de la chanson est préfacé par Montand. Comment ? Alors bon. Il y a un an et demi, deux ans, dans l'Est, je chantais. Et après, dans la loge, il y a souvent des gens qui viennent me voir, vont faire signer des choses. Tout d'un coup, arrive un type, et je ne fais jamais immédiatement le rapport avec l'attitude de quelqu'un, et puis moi, n'est-ce pas? Et ce type, il pleurait. Alors j'ai dit, ça va pas, vous êtes malade, il y a quelque chose qui vous est arrivé. Et alors à ce moment-là, j'ai compris qu'il pleurait pas, parce qu'il me rencontrait moi, quoi. Bon. Ah, j'ai dit. Et il me dit, j'ai vu chanter. C'est fantastique. Et j'ai dit, quel âge t'avais en 68? Il me dit, 4 ans. Voilà. Et ça, c'est le miracle du disque. C'est sûr. Et moi, je chante parce qu'il est plus honnête pour moi de chanter, puisque je peux chanter encore, il n'y a aucun problème, qu'il y a un autre rapport, quand je suis au théâtre, sur la scène, avec mes chansons, que des gens qui ne m'ont jamais vu chanter, ils connaissent les chansons par le disque, et il y a c'est tout à fait autre chose, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, je dis toujours, d'une façon un peu... Non, pas, c'est pas méchant, enfin. C'est à peine drôle que les gens qui font mon métier, leur clientèle vieillit en même temps qu'eux. Moi, c'est le contraire. Ma clientèle rajeunit toujours. Je n'aurais jamais touché un poète, parce que pour moi, bon, la poésie, c'était sacré, il fallait pas... Un jour, j'avais vu Piaf quand j'avais fait les Baudelaire. J'avais chanté un ou deux Baudelaire. J'imaginais qu'elle aurait pu chanter quelque chose. Elle m'a pas laissé chanter en me disant, ah, pour moi, Baudelaire, c'est sacré. C'était pas un miracle d'intelligence, n'est-ce pas? Bon, bref. Et puis, oui, quand j'étais petit, j'avais 12 ans, j'étais au cinéma un jour, j'avais vu un film qui s'appelait Partir. Et dans ce film, il y avait un chanteur de l'opéra qui s'appelait Charles Panzer, que tu vas donner, qui fait des disques, et qui chantait L'invitation au voyage de Baudelaire sur la musique de Duparc. C'était fantastique. Et je me souviens, je suis là, j'étais en larmes, j'avais écouté ça. Donc il n'était pas question de mettre de la musique, moi, encore là-dessus, quoi, et de toucher au poète. En 1957, sans le savoir, donc 100 ans, au centenaire de Faire du Mal, quoi, ça tombait comme ça, j'avais allé Faire du Mal sur le piano. Et j'ouvre et je vois L'invitation au voyage. Et je me mets à chanter comme ça, et puis sans aucun espoir d'ailleurs, je ne voulais pas. Et tout d'un coup, je lis des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Et je vois que Duparc, il n'avait pas mis ça en musique. Alors je me suis dit, eh ben Léo, t'as qu'à sauver les meubles. Et c'est pour ça que j'ai mis tous les poètes en musique. Voilà. Sinon, je n'aurais pas fait. Et après, bon. Il y avait les histoires d'orchestre. Il y a un producteur qui s'appelle Roland Hubert qui avait pris des risques sérieux. Parce qu'il n'est pas. Il n'était pas sûr que je puisse amener des gens dans un théâtre où il y avait aussi Beethoven et puis Ravel avec le concerto pour la main gauche, joué par Dagachatz, qui est un grand pianiste. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'on a rempli la salle du Palais des Congrès pendant un mois. Une salle qui fait 3770 personnes, je crois, oui. Alors je répète, puisque je le dis, puisque personne ne le dit, je dis que quel est le chef d'orchestre au monde depuis qu'il y a des concerts de musique symphonique qui a rempli une salle pendant un mois, une salle de 3770 places pendant un mois sans changer de programme. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que j'ai amené au théâtre des gens qui n'écoutaient pas la musique, à qui on n'a pas appris à aller au concert, quoi. Et il y avait des gars de l'université, il y a des, qui ne connaissaient pas précisément, fatalement, le concerto pour la main gauche de Ravel, qui est une œuvre fantastique, dramatique. Et je me souviens de deux femmes qui étaient allées voir mon pianiste, le pianiste d'Agachas, en lui disant « Ah, c'est vous le pianiste, c'est vous, Ravel ?» Extraordinaire. Mais ça fait rien, ces erreurs. Elle avait écouté, ça l'avait frappé. Et après, elle a dû le savoir. Bon. Ce pianiste d'Agachatz, qui habite en Suisse, a fait une chose extraordinaire, parce que c'est d'une qualité surprenante. Il habite dans la maison, dans l'appartement où Stravinsky a écrit le Sac du printemps. Bon. Alors, bon, il est pianiste, ça le travaillait, tout ça. Et un jour, il a... écoute, évidemment, il connaît la musique, il connaît tout ça. Et... Stravinsky avait écrit le Sacre pour l'orchestre et pour le théâtre de Monte Carlo. Et pour apprendre aux danseurs la musique, quoi, il avait fait lui-même une réduction de piano à quatre mains, quoi, Stravinsky. Lui, il a fait un disque, à deux mains, le Sacre du printemps. C'est extraordinaire, fantastique. Alors j'ai enregistré avec lui le piano, le concerto pour la main gauche chez... avec l'orchestre de Milan, et ça c'est une histoire, c'est extraordinaire, que je ne peux pas inventer d'ailleurs. J'ai commencé le 9 novembre 1975 à Paris, avec donc dans le concert, le concerto pour la main gauche, et le type qui s'occupait de la musique classique chez CBS, était venu me voir en me disant, vous savez, ça va, M. Ferré, vous pouvez être content parce que depuis, en 15 jours, il était venu voir le 20 novembre, par là, ou le 22, en 15 jours, vous avez vendu 7500 disques du concerto pour la main gauche de Ravel. Moi, j'étais très content, ça ne m'a pas ébloui, parce que souvent, les chanteurs en vendent beaucoup plus, mais on m'a dit que la musique symphonique et classique, c'est beaucoup plus difficile. Hein, en France, il y a beaucoup moins d'amateurs, parce qu'ils connaissent moins. Et je lui dis, ah, mais il me dit, vous pouvez être d'autant plus content, vous savez, c'est que... Nous distribuons Boulez International. Boulez était à ce moment-là directeur, chef d'orchestre à New York. Il a enregistré ça avec Entremont. Et en France, en 3 ans, il a vendu 2500 disques. Et depuis, on en a vendu 25 000 et c'est épuisé. Comme j'avais allé en Italie, je voulais quitter la France. Je suis allé là-bas. On avait loué une maison pendant deux ans, à San Casciano, qui est le pays de Machiavel, et le village où, en dehors de ce village, l'autre jour s'est exercé le monstre de Florence en tuant deux Français, quoi, hein, bon, sans cacher un. Puis après, j'avais un type que je connaissais qui m'avait trouvé une maison un peu plus près de Sienne, c'est-à-dire à 16-18 km de Sienne, et là, j'ai acheté cette maison. Alors maintenant, des fois, j'ai envie de partir d'Italie, parce que j'en ai assez, mais je peux pas, parce que mes enfants... sont de vrais Toscans, là-bas. Mon fils, il a l'accent, il parle comme un Toscan. Ils vont à l'école là-bas, les écoles italiennes sont très bien faites. Je me vois difficilement et égoïstement dire à mes enfants, alors maintenant, on va à l'école en France. Ça va faire un choc terrible, arriver dans les écoles françaises maintenant. Moi, je parle italien, mais très mal à côté d'eux, quoi. C'est fantastique, ça m'ennuie d'ailleurs, parce que... Mon fils, on dirait un Toscan, mon fils. Ah oui, tout à fait. Mes filles aussi, oui. C'est extraordinaire. Il avait laissé, c'est comment dire. Oui, on avait laissé la courbe, on dit la courbe, hein. Et la casa, on dit la casa, c'est A, ça. Et un jour, avant de trouver cette maison, j'étais avec Marie en voiture, on cherchait quelque chose, on nous avait dit qu'il y avait un moulin. Avant de moulin avec l'eau sur le moulin, moi ce que je voulais voir, parce que si un jour tu trouves une maison sur l'eau comme ça, tu dors comme un prince, c'est fantastique. Ah oui, avec l'eau qui coule sous la maison. Alors on cherchait ça, on a trouvé un paysan qui était dans la rue, enfin, il avait l'air d'être un paysan, un type de travailler comme ça. Alors on lui dit, vous pouvez me dire où se trouve le moulin? Ah, il dit, facilissimo. Prendre la rufa, trouve la rasa. C'est ça, ils avaient laissé. La rufa, la rasa.
Alors, les autres disent la courbe, la casa. Et Mathieu, il va le laisser, même quand il n'y en a pas, quoi. Je travaille toujours. Je pense que c'est le loisir. Probablement que le travail est un loisir, quoi, au fond. Hein, c'est ça. J'ai pas de difficulté. Je me lève le matin de bonne heure. Parce que quand je suis là-bas, que j'accompagne mon fils là-haut pour prendre le car, dès que je me lève à 6h30, avec plaisir. Alors, mon fils, arrive, il m'allume la machine à café, et on ne se parle pas, il se fait son chocolat, il boit un litre d'eau, c'est extraordinaire, je ne sais pas pourquoi. Et parce qu'il grandit, il est plus grand que moi maintenant, il a 15 ans, et puis il me met ma tasse à moi, je fais mon café, il se fait son chocolat, tout ça, et puis on allume Antenne 2, là, parce que c'est Antenne 2 le matin, là, on regarde un peu les nouvelles, puis moi je l'accompagne jusqu'à là-haut, on ne se parle pas. Et alors, hier, il a dit à sa mère, au téléphone, sa tante, c'est-à-dire la sœur de Marie qui garde les enfants là-bas, a dit, ah Mathieu, il vient de se lever, il était 11h du matin, c'était dimanche, et il ne parle pas. Alors, il a passé le téléphone à sa maman, et Mathieu a parlé à sa mère, et Marie lui a dit, alors tu ne parles pas? Elle dit, non, quand je me lève, ça dure une demi-heure, je suis comme mon père. C'est extraordinaire, hein? Et c'est vrai, quoi. Quand on se voit le matin, on ne se parle pas. Et c'est parfait, comme ça. Un jour, il vient me voir, il me dit, « T'as les cassettes, papa ?» J'ai dit, « Quelles cassettes ?»« Les tiennes. » J'ai dit, « Toutes. » Il a écouté toutes les cassettes, deux, trois fois de suite. Il n'avait rien écouté avant. Il savait très bien, il avait écouté des chansons, comme ça. Ah, ça, c'est fantastique. Ça, c'est l'âge, quand il devient... adulte, quoi, que ça doit être là le partage des eaux, quoi. Et c'est fantastique. Je lui dis rien d'ailleurs, je lui demande pas. Et je sens avec un Walkman, tu sais, il écoute tout. Hein. Et c'est pas facile pour lui encore, même à 15 ans, c'est pas facile. Hein. Mais il s'est réveillé comme ça, quoi. Il était venu au Palais des Congrès. Pour la répétition, il allait voir la contrebasse, tout ça. Puis un jour, pendant la répétition, il s'était endormi à mes pieds, comme ça. Sous le pupitre, enfin, ça. Ce sont des souvenirs qui contrebalancent la mer dans laquelle on vit habituellement, dans ce monde de démocratie